Bonjour tout le monde. Combien de mitzvot y a-t-il en tout? 613. Ce serait vrai, c'est effectivement écrit dans la Gemara, dans Makot, au nom de Rabbi Simlai. Combien en a-t-il de positives? 248. De négatives, 365. Ce qui veut donc dire qu'il y a deux sortes de mitzvot, n'est-ce pas, si je ne me trompe? Donc, un livre qui ferait la liste des mitzvot serait divisé en combien de parties? En deux. Le Rambam a écrit un livre qui s'appelle le livre des mitzvot, et qui est divisé en trois parties, évidemment. La deuxième partie parle des commandements positifs, et la troisième des commandements négatifs. Alors, de quoi parle la première partie? Hein? La première partie s'appelle Shorashim. Shorashim, ça veut dire les prémices, les racines. C'est-à-dire les 14 principes en fonction desquels Maïmonide compte les mitzvot. D'accord? Donc vous avez une première partie qui est divisée en 14 chapitres qui vous explique la manière de compter les mitzvot avec de très grands principes importants. Et puis la deuxième partie qui parle des 248 commandements positifs. Combien de paragraphes y a-t-il dans la partie qui parle des commandements positifs? 248. Et 365 paragraphes de la troisième partie qui parle des commandements négatifs. Ceci s'appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements, qui d'ailleurs a été traduit en français. Il y a une édition avec une introduction du professeur Levinas au livre des commandements de Maïmonide. Tout le monde est d'accord pour le chiffre de 613 et 248 et 365. Tout le monde est d'accord. Mais alors, sur quoi les gens ne sont pas d'accord? Nos chachamim sont divisés sur la manière de compter. Qu'est-ce qu'on introduit? Qu'est-ce qu'on n'introduit pas? Par exemple, la mitzvah de présenter un sacrifice. Ça peut être considéré comme une mitzvah. Ça peut être considéré comme quatre mitzvot. La mitzvah de faire la shrita, la deuxième de recevoir le sang, troisièmement d'amener le sang jusqu'à l'autel, quatrième mitzvah, de jeter le sang sur l'autel. Donc, il peut y avoir quatre commandements différents, ou bien un seul. Donc, si je prends les quatre opérations comme un seul commandement, il me reste encore combien de commandements de libre? Trois, n'est-ce pas? Donc, il y aura un autre compteur des mitzvot qui introduira trois mitzvot. Il y en a qui en ajoutera, il y a d'autres qui vont en retrancher, etc., etc. Alors, autour de ça, nous avons un débat entre le Ramban et le Rambam. Le Ramban est également, Nachmanide, un des compteurs des mitzvot, un des dénombreurs des mitzvot, mais il n'est pas toujours d'accord avec le Rambam. Il a une liste de mitzvot qu'il rejette de la liste et qu'il en amène d'autres à la place. Aussi bien dans les mitzvot assez que dans les mitzvot assez, aussi bien dans les commandements positifs que dans les commandements négatifs. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, d'accord. Alors là, je vais vous lire ici un texte du Ramban qui s'appelle Mitzvot Sheshachach Otan Harav Mitzvot Assez. Les commandements que notre maître a oubliés dans les commandements positifs, Kefidat Ramban, selon l'opinion du Ramban. Le Ramban n'est pas d'accord et il compte ici une série de commandements positifs. Alors, un des commandements positifs, c'est le commandement numéro 4, Dalet. Mitzvah Dalet. Vous connaissez ce texte? Vous connaissez ce texte? Non. Bon, on va le lire. Shenitztavenu, que nous avons reçu comme ordre, la Rechet Haaretz Asher Natan Ha'el Itale Lavotenu, de prendre possession du pays que l'Éternel, béni soit-il, a donné à nos ancêtres. Abraham, Yitzhak ou Yaakov, c'est-à-dire en français Abraham, Isaac et Jacob. Velo na'azveha, beyad zulatenu min ha'umot, o lishmama. De sorte que nous ne pouvons pas l'abandonner à d'autres que nous parmi les nations ou à la désolation. C'est-à-dire que cette terre doit être sous la souveraineté d'Israël. Et c'est donc un des commandements positifs. Traduction en termes modernes de ce que veut dire le Ramban. Un territoire sous souveraineté d'un peuple, ça s'appelle comment en français ? Un État. N'est-ce pas ? Un territoire sous souveraineté d'un peuple, ça s'appelle un État. Donc de ce point de vue-là, la fondation de l'État d'Israël et la permanence de son existence, c'est un commandement positif des 613 commandements de la Torah. Ce qui veut donc dire que lorsque Ben Gurion et le gouvernement provisoire ont fait la déclaration de l'indépendance, ils auraient dû faire une bracha. Asher ki deshanu bemitzvota vitzivanu leakim medina. C'est ça ? C'est-à-dire, il nous a donné, il s'est sanctifié par ses commandements, il nous a ordonné de fonder un État. Je crois qu'ils n'ont pas fait la bracha, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être qu'ils avaient peur de l'opinion des Gdoilim. Mais en tout cas, le Ramban, pour lui, c'est évident, c'est un commandement positif. Il y avait parmi les signataires de la déclaration d'indépendance un rabbin, le Rav Maimon, Zichrono Livracha, qui par la suite est devenu le ministre des cultes en Eretz Israël, en Israël, et qui a fait la bénédiction de Shehriyanu. Effectivement. Et alors tout le monde a mis la kippa à ce moment-là. Interdit. Bon, en tout cas, maintenant, où est-ce que le Ramban a été chercher tout ça ? C'est-à-dire, c'est énorme ce qu'il dit le Ramban, qu'il y a un commandement positif de fonder un État en Eretz Israël. Bon flanc, mais fait bien fur. Vehu omro lahem. Alors, il amène ici un verset. C'est ce qu'il leur dit. Vehu rachtem et haaretz, vishavtem ba. Vous ferez la conquête du pays et vous vous y installerez. Ki lachem natati et haaretz la rechetota. Car c'est à vous que j'ai donné cette terre pour en prendre possession. Vitnachaltem et haaretz, asher nishbati la votechem. Et vous prendrez héritage de du pays que j'ai juré à vos ancêtres. C'est ça, les versets que nous venons de lire sont tirés de la paracha de Massaé. Massaé, c'est la dernière paracha du livre de Bamidbar, vous êtes sûr ? Devarim ? Vaïkra ? Bereshit. Oui. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? Est-ce que tu as avancé des preuves ? Je pense que tu ne peux pas. Effectivement, c'est la dernière paracha de Bamidbar. D'accord ? Dans la dernière paracha de Bamidbar, là-bas, vous avez ces versets dans lesquels il dit « Vous devez faire la conquête de ce pays. » Donc, d'après le Ramban, c'est un des 613 commandements, un des 248 commandements positifs. « Uferetota lahem be mitzvah azo kula bigvulea u mitzarea » Il en a donné le détail de cette mitzvah selon ses frontières et ses limites. Kemo Shehamar, ainsi qu'il est dit, ou vohu hara emori, venez, introduisez-vous dans la montagne de l'Émoréen, vel kol shechenav et tous ses avoisinages, ba'arava, dans la steppe, bahar, dans la montagne, ou vashefela, dans la plaine, ou vanegev, dans le sud, ou vechofayam, et sur la bande côtière, Végomère, etc. Ça veut dire quoi, etc. Il y a une suite au verset. Comment finit le verset ? Eretz Akenaani va Lévanon, le pays du Cananéen et le Liban, Adanahar Agadol, Nehar Perat, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Pourquoi est-ce que tout cela a été indiqué ? Shelo Yanihu Mimena, Makom, pour qu'on n'en oublie pas un endroit. C'est-à-dire, la souveraineté doit s'étendre sur l'ensemble du territoire qui a été promis à nos ancêtres, et pas sur une partie seulement. C'est comme faire la mitzvah à moitié. D'accord ? On ne fait pas la mitzvah à moitié, on ne s'arrête pas. Par exemple, il y a une ville en France où les Arabes ont été arrêtés. C'est ça ? Ils ont été arrêtés à moitié, je crois. Parce qu'ils ont continué. Et ils ont dépassé. Et tandis que la mitzvah est une mitzvah totale, c'est-à-dire elle inclut l'ensemble du territoire d'Eretz Israël. Ce verset qu'il a amené là, avec toute la liste des territoires à prendre, où est-ce qu'il est, ce verset ? Hein ? Le verset là, où vohu hara emori vel kol shechena barava bar uvashvela uvanegev uvrofayam, etc. D'où est-ce qu'il vient ce verset ? Non, pas du tout. Les versets d'avant qui disent de faire la conquête. Mais le verset qui dit le détail du territoire, c'est pas dans Bamidbar. Non. C'est comment? Si c'est dans, on parle des mitzvot de la Torah. Ah, ouais, c'est... Si c'est une mitzvot de la Torah, c'est le verset est obligatoirement dans la Torah. Ah oui, il lui a dit entrez dans le pays des Émoréens et faites la conquête, tout ça. Hein? C'est dans Devarim. Dans Devarim. Dans la paracha de Devarim, qui est la première de quel livre? Devarim. Très bien. Voilà. Là, vous, je vois, vous faites des progrès. Bon. Alors maintenant, le problème, bon, c'est très beau ce qu'il dit le Ramban, mais dans ce cas-là, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que le Ramban n'a pas accompli la mitzvah? Le Ramban, il ne peut pas dire qu'il y a une mitzvah, il ne la fait pas. Si le Ramban pense qu'il y a une mitzvah d'agiter un loulav à Sukkot, eh ben, il l'agite. Il pense qu'il y a une mitzvah de faire la conquête d'Eretz Israël, il doit la conquérir. Oui? Il n'avait pas les moyens, voilà, c'est ça. De même que la mitzvah d'agiter un loulav a pour condition d'avoir un loulav, et si on n'en a pas, ben on ne la fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on en est dispensé, mais on ne peut pas. Et bien de même, il n'avait pas les moyens de faire la conquête à l'époque, c'était la dispersion d'Israël dans tous les pays, il ne pouvait pas organiser une armée, donc il en était dispensé, oui.
Est-ce qu'il essayait de monter en Eretz Israël?
Alors, elle promet, est-ce qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël, d'après ce qu'il dit là? Que dit la Torah? La mitzvah, c'est quoi? C'est de conquérir. Mais monter, par exemple, si il y a une domination turque, et que moi j'ai envie d'habiter à Jérusalem parce que j'aime bien le climat, hein, ou bien parce qu'il y a le kotel pas loin pour faire la prière, est-ce que j'accomplis de ce point de vue-là une mitzvah?
C'est le début de la conquête. C'est le début de la conquête d'y habiter.
C'est le début de la conquête d'y habiter?
Bien sûr.
Alors justement, c'est pas évident que j'accomplis vraiment la mitzvah du Ramban. Je prépare la mitzvah du Ramban. C'est-à-dire, plus qu'il y a de gens qui montent en Eretz Israël, qui s'emparent de terrain, qui se font enterrer en Eretz Israël, etc. Alors, effectivement, ça prépare la conquête. Effectivement, comment est-ce que la conquête du pays a été possible de nos jours? Parce qu'il y avait un Yishuv, il y avait des Juifs, ils étaient là, ils se sont organisés, et donc, on a pu accomplir la mitzvah. Mais, il est évident que la mitzvah elle-même, c'est la conquête, et pas la lia. N'est-ce pas? Oui? Alors, c'est ça le problème. Les versets qui ont été amenés jusqu'à présent, c'est une mitzvah collective. Alors moi, individu, je monte d'Espagne en Eretz Israël, comme il a fait le Ramban. Le Ramban, d'ailleurs, est venu en Eretz Israël. Il est venu parce qu'il a pris la fuite. Rappelez-vous bien de cela. Il s'est enfui d'Espagne. Eh bien, mais est-ce que le Ramban a accompli une mitzvah? Individuellement? Ou est-ce que c'est une mitzvah? C'est par exemple, si par exemple, je ne sais pas, j'arrive à m'emparer d'un terrain d'Eretz Israël, d'un territoire d'Eretz Israël, tout seul. Bon, mais je l'ai fait au nom de... Oui, bon, ça peut arriver. Ouais, je pars à la poursuite de nos ennemis, je leur dis ectoplasme, bachibouzouk, etc. Et donc je les poursuis. Et donc j'ai réussi. Mais ça, ça marche si je le fais au nom du clan Israël. Mais non, l'individu qui fait son alia, il n'a pas fait la mission de la conquête. Remarquez, c'est très important ce que je dis là. Il y a un des grands poskim du 19e siècle, le rabbi Yehoshua de Koutno. Dans son responsable Yeshuot Malko, dit que la mitzvah, d'après le Ramban, c'est la mitzvah d'être en Eretz Israël comme un homme qui fait dans son domaine. Ke'adam ha'oseh betor shelo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut se librement agir à sa guise dans son territoire. C'est ça, la mitzvah d'après le Ramban. Donc, s'il y a un Turc ou un Anglais qui me dit ce que je dois faire, je n'ai pas accompli la mitzvah. D'accord. Cependant, alors là, je saute quelque chose comme une quinzaine de lignes, et je cite quand même ici un chidouche du Ramban qu'il rajoute, Ve'omerani, et moi je dis. C'est-à-dire, il n'amène pas des versets, mais maintenant il dit, il va tirer comme une conclusion, qui a mitzvah shechachami mafligimba, que la mitzvah qui est tellement louée par nos sages, Ve'hu dirat eret Israël, qui est d'habiter eret Israël. Atche amru biktuvot, à tel point que dans Ketubot on a dit Kolayotse mimena vedar bechutzalaret yebenecha koved avadazara, que celui qui en sort pour s'installer en chutzalaret doit être à tes yeux considéré comme un idolâtre. Sheneemar ki gershuni hayom istaper benachalat Hashem lemor lecha avod Elohim acherim, ainsi qu'il est dit, on m'a renvoyé de m'associer à l'héritage de Dieu en me disant va adorer des dieux étrangers. Vezuladze a flagot de Gedolot, et encore d'autres grandes choses chez Amrouba qu'ils ont dit à ce propos. toutes les louanges de la Aliya, de l'installation en Eretz Israël, toutes ces choses-là qui ont été dites par nos Chachamim dans la Gemara, il dit Hakol umi mitzvat asse. Tout cela est inclus dans le commandement positif. Shenitzta venu la rechet arez la shavet ba, parce que nous avons le devoir de prendre possession de la terre et d'y résider. C'est-à-dire que vous voyez que pour le Ramban, l'Aliya, c'est un acte de conquête. Donc ça fait partie de la mitzvah. C'est-à-dire, le Ramban. Je cite le Ramban pour l'instant. Imken, hi mitzvat ase le dorot. C'est donc un commandement positif pour toutes les générations. Mitrayev kol echad mimenu, qui engage chacun d'entre nous, va filou bizman galut, et ceci même en temps d'exil. Kayadoua Batalmud Bimkomot Arbe, ainsi que cela est bien connu dans le Talmud, dans de nombreux endroits. C'est-à-dire que d'après le Ramban, la mitzvah de la Aliyah, c'est la manière d'accomplir la mitzvah de la conquête en temps de Galout. C'est donc une dérivée, c'est un ersatz, c'est quelque chose qui ressemble. C'est une mitzvah. Une mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah originelle. La mitzvah originelle, c'est Tzahal qui bombarde et qui fait la conquête. Vous avez compris? C'est ça d'après le Ramban. Maintenant, est-ce que pour le Ramban, ça va se passer forcément par la guerre? Non. Ça peut très bien se faire par une déclaration des Nations Unies qui dit, voilà, ben, on vous donne ce terrain. Et puis les habitants antérieurs disent, voilà, ben, on vous a laissé la clé. Le tiroir de droite, c'est Bessari, et à gauche, c'est Halavi. J'espère que ça sera propre, etc., que vous serez contents de nous. Au revoir. D'accord? Ça peut se faire, n'est-ce pas? Oui, non, ben, pourquoi pas? D'après, il y a des Midrashim qui disent que la raison pour laquelle on devait faire la guerre pour prendre la possession des Rétis Israël, c'est à cause de la faute du Vaudor. Mais un jour, la faute du veau d'or sera réparée. Alors les goyim nous diront, ben voilà, excusez-nous, on n'est pas parti assez tôt, mais enfin, c'était pour bien nettoyer l'endroit, on vous a mis un tapis rouge, et il y a des bonbons pour les enfants. Ouais. Hein? Ouais. Il y a toutes sortes de bonbons. Comment? Kacher. C'est pas forcément nécessaire que ce soit kacher. Par exemple, en temps de guerre, on a le droit de manger pas kacher, quand on est au front, et qu'on rentre dans une maison et qu'on a faim, même si c'est pas picouar nefesh, on peut manger même du porc. C'est écrit dans le sifflet, hein, c'est le Rambam qui amène ça. Mais quand on est en première ligne, on n'a pas le temps de faire trop de réflexions, etc. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Tiens, ils ont laissé ça, c'est encore chaud, pas mal, c'est bon. D'accord? Ça, on a le droit. Ouais. Mais enfin, disons de préférence, c'est vrai que si les bonbons sont cachers, c'est bon. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez, vous? Oui, quel bonbon, par exemple? Non, parce que c'est important, il faut le dire au goyim. Non, c'est très important pour dire au goyim comment faire la mitzvah. C'est-à-dire, les chocolats, par exemple, les chocolats? Léonidas, il y en a qui aiment beaucoup Léonidas. Voilà. Ah, tiens, les scriptures. Voilà. Bon. D'accord. Alors, c'est ça, la mitzvah. Alors, évidemment, on peut se demander, mais alors... est-ce que c'est bien sûr, par exemple, est-ce que quand la Torah dit vous prendrez possession de la terre, est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer ce verset autrement? Enfin, on pourrait très bien dire que c'est une promesse. C'est pas une mitzvah, mais une promesse. C'est comme, par exemple, quand la Torah dit, voilà, si tu te comportes bien, eh bien, tu auras des bonbons. D'accord? Eh bien, est-ce que ça veut dire que c'est une mitzvah de manger des bonbons? Non, pas forcément. Donc, ça peut être une récompense. On peut très bien dire que ce que la Torah a dit, vous prendrez possession de la terre, il ne s'agit pas d'une mitzvah, mais d'un salaire. D'accord? Et donc, comme c'est un salaire qui est donné par la Torah, c'est pas forcément une mitzvah. Donc, je ne transgresse rien quand je ne fais pas la conquête des Rétis Israël. N'est-ce pas? On pourrait le comprendre comme ça. Alors, le Ramban réfute cet argument, il dit, Vezoi Shechachamim Korimota. Attends, non, pardon. Quoi?
Tu vois, histoire
de salaire. Oui, on pourrait très bien dire, on pourrait objecter au Ramban, hein, qu'est-ce que c'est que ces versets que tu amènes? Les versets que tu amènes ne prouvent absolument pas que c'est une mitzvah. C'est peut-être une promesse. N'est-ce pas? D'accord? Quand le prophète nous dit, vous mangerez à satiété. D'accord? On voit ça souvent chez les prophètes. Est-ce que ça veut dire que c'est une mitzvah de manger? Non, pas forcément. Donc, de même, on pourrait dire, voilà, si vous vous comportez bien, vous faites ce que Dieu il dit, eh bien, vous aurez, comme récompense, Eretz Israël. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une mitzvah de faire la conquête? Pas forcément. D'accord? C'est ce qu'on pourrait objecter au Ramban. Alors, le Ramban, qui, ne se mouche pas du pied de gauche, sait répondre à ces choses-là. Il dit, Ve'areaya, Shezo mitzvah, la preuve que c'est une mitzvah, Omro yit ale ba'inyan amiraglim, ce que Dieu a dit à propos des explorateurs, ale ra'ash ka'asher diber Hashem lach, altira ve'atechat. Vas-y, fais la conquête comme Dieu te l'a dit. N'aie pas peur et ne sois pas terrorisé. Ve'amru od, il est dit également, ou vishloach Hashem etrem mikadesh barnea les morts, alou urshu et aaretz asher natati lachem, lorsque Dieu vous a envoyé de Kadesh Barnea pour vous dire de faire la conquête de la terre que je vous ai donnée, ve'hasher lo avou la'alot be'ma'amarazé, et quand ils n'ont pas voulu le faire, Katouv va tamrou et puis Hachem, il est dit, vous avez enfreint la parole de Dieu. Donc si c'est une infraction, c'est donc qu'il y avait une mitzvah. Vechen lo shema'atem, demain il est dit, vous n'avez pas entendu. Ora'a, cela prouve, shehu mitzvah, que c'est un commandement, lo yirud ve'aftacha, et non pas une promesse et une vocation. D'accord ? C'est ce qu'il dit, lo yirud ve'aftacha, ce n'est pas une vocation et une promesse. Et c'est cela que nos sages appellent la guerre de mitzvah. Alors il amène ici plusieurs textes dans Maseret Sota et tout le reste. Alors maintenant on pourrait dire, bon d'accord, on est d'accord avec toi Ramban, mais c'est vrai que c'est une mitzvah, mais la mitzvah n'est pas ce que tu crois. La mitzvah n'est pas de faire la conquête d'Eret Israël, mais d'exterminer les populations cananéennes. D'accord ? Et donc ça n'a rien à voir avec le territoire d'Eret Israël. Il faut zigouiller les Cananéens, point à la ligne. Mais cette histoire de territoire, d'avoir la souveraineté sur Eretz Israël, peut-être que tu te plantes complètement. D'accord ? C'est ce qu'on pourrait objecter au Ramban. Nouvelle objection.
C'est-à-dire qu'il y avait des
Cananéens
au Japon,
c'est ça que ça voudrait dire. Alors le Ramban répond à cela. Ve altishtabesh, ne sois pas embrouillé, dit le Ramban. Ve tomar, ki a mitzvah azot, ki a mitzvah beulchemet shiva amamim. Que ce commandement concerne la guerre contre les sept peuplades, Chimistavenu le Abdam, que nous avons reçu l'ordre de détruire. Chenemar acharem tacharimem, ainsi qu'il est dit, tu les détruiras. En adavarken, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas vrai, dit le Ramban. Pourquoi? Chenemistavenu la roga umotahem, bilachamam imanu. Parce que nous n'avons reçu l'ordre d'exterminer ces populations que si elles nous font la guerre. Vimratsu le ashlim, et si elles veulent faire la paix, nashlim, nous faisons la paix. Et nous les laissons selon des conditions connues. Avala aretz, mais la terre, l'onaniachota beyadam, nous ne la laissons pas entre leurs mains. Velo beyadzulata mina umot bedor mina dorot, ni aux mains d'aucune des nations dans aucune des générations. Vechenim baruchu aumot haemipanenu, de même si ces nations ont pris la fuite de devant nous. Vealchulaem, ils sont partis. Comme par exemple, tu as proposé des Cananéens au Japon. C'est une bonne idée. Kema Amaram, ainsi qu'il est dit, Agirgashi Panava Alachlo, le Girgasséen est parti. Venatan Aem Akadojoru Eretz Tova Ke Artsam, et Dieu leur a donné un pays aussi bon que le leur. Zoafrika, c'est la Tunisie. Nitztavenu Anu, Lavo Baaretz, Africa, à l'époque des Chachamim, ça veut dire la Tunisie. Nitztavenu Anu, Lavo Baaretz, Velirbosh, et Harim, ou le Shibashvate, nous avons l'ordre de venir sur la terre, de faire la conquête des villes et d'y installer nos tribus. Vechen, acharei achritenu amim, après avoir détruit les peuples, imratsu shevatenu leozva velirbosh laem eretz shinar ou eretz ashur vezulata mina mekomot, enam rashaim. Si nos tribus ont décidé de partir après avoir fait la conquête et de conquérir le pays de Sumer ou de Ashur ou d'autres endroits, ils n'ont pas le droit de le faire. Shenitztavenu bikibusha ou vishivata, car nous avons reçu l'ordre d'en faire la conquête et de s'y installer. Bon, après, il amène encore d'autres détails. Je ne vais pas trop m'allonger là-dessus. En tout cas, donc, vous avez... Il faut s'installer en Eretz Israël. Oui. C'est-à-dire, tu dois faire... Il y a deux éléments dans la mitzvah. D'une part, d'en prendre possession, c'est-à-dire la souveraineté politique, et après, de s'y installer. Construire des maisons, labourer la terre... Il n'y a ni l'un ni l'autre de toute manière. Il n'y a ni mitzvah de faire la conquête de Sumer, ni de s'y installer. D'accord ? D'accord. Donc, il y a le devoir également de résider en Eretz Israël, qui est une dérivée de la conquête. D'accord ? Donc, cela, pour le Ramban, c'est très très clair. Il n'y a pas à tourner autour. Maintenant, le problème, c'est que vous vous rappelez qu'il a dit que c'était une mitzvah qui a été oubliée par Maïmonide. Alors, il y a plein de débats à n'en plus finir dans le Bet HaMidrash pour savoir pourquoi est-ce que Maïmonide, lui, n'a pas compté cette mitzvah.
Est-ce qu'elle était logique?
Alors certains vous diront, Maïmon n'a pas conduit cette mitzvah parce qu'il pense qu'il n'y a pas de mitzvah. Quoi? Il y en a qui pourraient dire que Maïmonide n'a pas compté ça parce qu'il pense qu'il n'y a pas de mitzvah. Quoi?
Parce que c'est tellement comme la tchouva, c'est logique de faire tchouva. Comme c'est logique de monter en Eretz-Israël.
Il y en a qui te diront que non. D'accord? Certains ont affirmé que non. Certains ont affirmé que ce n'est pas que ce n'est pas de mitzvah, mais la mitzvah n'a pas cours de nos jours. D'accord? Oui? Donc,
ça, c'est pas un argument.
Exactement, j'allais le dire, effectivement. C'est-à-dire, l'argument qui dit que le Rambam n'aurait pas cité cette mitzvah parce qu'elle n'a pas cours de nos jours, n'est pas un bon argument, parce que le Rambam, il cite toutes les mitzvot valables jusqu'à l'époque messianique. Donc, l'argument est faux. D'accord? Alors, la raison pour laquelle le Rambam n'a pas cité, alors il y aurait d'autres raisons à cela. Mais en tout cas, pourquoi je vous amène quand même cette opinion, bien qu'elle soit fausse, dans l'interprétation du Rambam, elle est intéressante en elle-même. Là, elle est citée par un rabbin d'Italie qui s'appelle Rabbi Yitzhak Di Leon dans son Megillat Esther. Le Megillat Esther, c'est un commentaire qui est imprimé en face de celui du Ramban. D'accord ? C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il y a à voir. Vous avez ici deux colonnes. Là, vous avez le Ramban. Là, vous avez le Megillat Esther. Alors, oui, comment ? C'est écrit en tout petit. Oui, c'est vrai qu'à la distance où tu es, c'est très difficile de lire. Mais là, d'où je suis, je pense que c'est faisable, et j'en ai d'ailleurs donné la preuve tout à l'heure, je pense que pas de problème. C'est-à-dire, je ne pense pas avoir lu de la mémoire. D'accord? Bon. Alors maintenant, le Megillat Esther, d'ailleurs que l'on confond avec un autre Rabbi Yitzhak Di Leon, il y avait un grand maître en Espagne, en Castille, Rabbi Yitzhak Di Leon, et celui-ci vit trois générations plus tard en Italie, et souvent il est confondu avec Rabbi Yitzhak Di Leon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Yitzhak Di Leon n'est pas n'importe qui. C'est une grande autorité de la halakha. Tandis que le Rabbi Yitzhak Di Leon, le deuxième, n'est pas considéré comme un grand maître. Mais depuis qu'il a dit quelque chose contre le sionisme, alors il est devenu un degdoilim. Et alors de quoi s'agit-il? Un degdoilim. Gdoilim. Ouais, plus tu dis ça de manière tordue, plus c'est considéré comme sacré. Degdoilim. Bon, alors... en tout cas, donc, le Megillat Esther qui dit cet argument a tort dans son interprétation du Rambam, mais l'opinion est intéressante en elle-même, je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, le Megillat Esther. Nir'eli kima shelo mena arav, il me semble que la raison pour laquelle notre maître n'a pas cité cette mitzvah, c'est-à-dire qu'il parle de Maïmonide, ou les fiches et mitzvah tirushat aretz vishivata, parce que le commandement de faire la conquête de la terre et de s'y installer, l'onahaga, rak bime Moshe, Yoshua et David, n'avait cours que du temps de Moshe, Yoshua et David, vechol zeman shelo galou me'artsam, et tant qu'ils n'étaient pas partis en exil. Avalacha shegalou me'aladmatam, mais après l'exil de leur terre, en mitzvah zo noheget les dorot, cette mitzvah n'a plus cours pour les générations, ad et bo hamashiach, jusqu'au moment où viendra le Messie. Qui adraba, car bien au contraire, nitztavenu lefi ma she'amru besof ketuvot, nous avons reçu l'ordre, ainsi qu'il est écrit à la fin de Ketubot, à la page 111, sheloni morod ba'umot, de ne pas nous révolter contre les nations. La lechet lirbosh et haaretz vechozka, pour aller conquérir la terre par la force. Donc c'est une interdiction de fonder un État. Voyez-vous. Veochichum ipasuk, ishvati etrem benot Yerushalayim, ainsi qu'ils l'ont prouvé à partir du verset, je vous adjure, ô filles de Jérusalem, etc. Vedarshubo, shelo yalou Israël bachoma, ils ont interprété que cela veut dire qu'Israël ne doit pas monter comme une muraille. Alors donc, il y a ici l'argument bien connu des trois serments qui interdit de fonder l'État d'Israël, de sortir de l'exil, etc. etc. C'est tout un passage très intéressant dans Ketubot. Je tiens à préciser que le Ramban connaît bien ce passage. La preuve qu'il le connaît, c'est qu'il a cité les lignes qu'il y a juste avant ça et les lignes qu'il y a juste après ça. C'est bien surprenant. C'est-à-dire, il fait exprès, le Ramban, de sauter ce passage. Donc il doit avoir des raisons de le sauter. Mais ça, c'est peut-être pour un autre cours. « Oma she'amar ha-Ramban, she'chachamim amru ki kibush ha-aretz imilchemet mitzvah, Mais les arguments amenés par le Ramban, que les Chachamim ont dit que la conquête de la terre, c'est une guerre de mitzvah, une guerre commandée. Zehu ka'asher lo nihyeh mshu'abadim la'umot. Cela n'a cours que lorsque nous ne serons plus asservis aux nations. Alors remarquez l'opinion du Megillat Esther. Le Megillat Esther pense que cette mitzvah n'a cours que lorsque nous sommes indépendants. C'est-à-dire, pour le Ramban, il y a une mitzvah d'être indépendant. Et pour réaliser l'indépendance, il faut faire la guerre. Pour le Megillat Esther, ce n'est que lorsqu'on est indépendant qu'il y a la mitzvah de faire la conquête de la terre. Comment ? Pour le Megillat Esther, l'un va sans l'autre. C'est-à-dire que il faut d'abord recevoir l'indépendance. Et comment la recevoir ? On ne sait pas comment. Mais une fois qu'on l'a, il y a la mitzvah de faire la conquête. Ah, par exemple, par l'accord des nations. Alors, ça voudrait dire que depuis 1948, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, il y a également la mitzvah de faire la conquête d'Eretz Israël, même d'après le Megillat Esther. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que il y a l'opinion du Rabbi de Satmar. L'opinion du Rabbi de Satmar est qu'il est interdit de fonder l'État d'Israël puisqu'il y a les serments. N'est-ce pas ? Les trois serments. Oui, les trois serments. Nous avons parlé il y a 3 minutes à peu près, ou 4 minutes à peu près. Il y a 4 minutes, tu n'as pas posé la question de savoir ce que c'était. J'ai cité un passage de Ketubot dans lequel on dit qu'il y a un serment comme quoi on n'a pas le droit de monter comme une muraille, n'est-ce pas ? Bon, il y en a trois là-bas des serments. Et donc, d'après le rabbi de Satmar, il est interdit de transgresser ses serments, donc on n'avait pas le droit de fonder l'État d'Israël, etc. Mais une fois que l'État est fondé, même si on l'a transgressé, maintenant il y a la mitzvah, n'est-ce pas ? Il y a la mitzvah de faire la conquête, c'est ce qu'il dit. Après, donc, il dit que quand il dit qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël, c'est pas vrai de nos jours, il n'y a pas le Beth Amikdash, etc., etc. Bon, il y a une quantité assez importante d'arguments qui tous ont été réfutés par les Chachamim dans la littérature rabbinique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, le point de savoir, la halakha est comme qui ? Est-ce que la halakha est comme le Ramban ou comme le Megillat Esther ? Comme le Ramban, c'est écrit en toutes lettres, dans le Pitrei Teshuvah, dans le Shulchan Aruch. Vous avez ici le Shulchan Aruch ?
Il n'y a pas le Shulchan Aruch.
Quoi ? Even Ha'ezer, vous avez ? Non. Quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Non, non, c'est pas la peine. Si, c'est très bien, mais c'est pas la peine de se déplacer pour ça.
Bon,
il n'y a pas. Il n'y a pas, Bon, en tout cas, donc, oui, il y a un des volumes du Shulchan Aruch, Even Ha'ezer, les règles concernant les mariages. Il y a là-bas, dans le Siman Ayin He, donc chapitre 75, il y a tout un débat autour de la question de savoir si une femme veut monter en Eretz Israël et son mari ne veut pas, ou l'inverse, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Alors, la mitzvah, la halakha, c'est qu'on divorce. Si c'est la femme qui demande de monter en Eretz Israël, alors elle reçoit sa Ketouba. Si c'est l'homme qui décide de monter en Eretz Israël, elle ne reçoit pas sa Ketouba. Enfin, peu importe, c'est-à-dire qu'il y a la mitzvah. Et là-bas, le Pitrei Teshuvah, qui rassemble tous les poskim, amène la controverse entre Rabbi Chaim Cohen et le Megillat Esther d'une part, le Ramban d'autre part, et le Rambam au milieu. On n'a pas encore parlé du Rambam. Et il dit que tous les poskim ont dit que c'était une mitzvah, même de nos jours, et ont cité le Ramban. De même, dans le Peat HaShulchan, qui est une sorte de Shulchan Aruch écrit par les élèves du Gaon de Vilna autour des mitzvot d'Eretz Israël, ils amènent l'opinion du Ramban, et qui est également l'opinion du Gaon de Vilna, ainsi que du Ribash, du Rashbat, ainsi que plus tard celle du Avnei Nezer, du Or HaChaim et du Rav Kook. Et moi, non, moi, je ne suis pas digne de rentrer dans ce quorum, mais enfin, en tout cas. Il a été amené, tous les poskim ont amené donc le Ramban. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut penser du Rambam ? Le Rambam. Alors, comment ? Alors, ça ne règle pas le problème du Rambam. Exactement, exactement. Alors là, je voudrais vous citer plusieurs textes du Rambam. Tout d'abord, un texte à nouveau dans le Sefer HaMitzvot, dans les Mitzvot Asse, la Mitzvah 153, Kuf Nun Gimel. La mitzvah Kuf Nun Gimel. C'est une mitzvah tout à fait différente de ça. C'est la mitzvah de sanctifier le premier du mois. Rosh Chodesh. Ça, on sanctifie les mois. Kiddush HaChodesh. Et également, on fait des années embolismiques. Attends, quoi? Des années embolismiques. Quoi? Quel est le problème? Non, c'est pas bissextile. L'année bissextile, elle s'appartient au calendrier grégorien. C'est-à-dire que de temps en temps, l'année a 366 jours, quand février s'allonge. D'accord? Non, l'année embolismique, c'est pas la même chose. Comment? On rajoute un mois. D'accord? Les années, mais on barote, on dit en hébreu. En français, embolismique. Comme ça, tu apprends le français. Tu es mieux marron de lire, pas pour rien, c'est pour apprendre le français. Bon, donc. Donc il y a une mitzvah, de manière générale, de mettre en place le calendrier. Et nous voulons savoir, mais qui c'est qui a l'autorité de décider du calendrier? Quand est-ce qu'on rajoute un mois? Quand est-ce qu'on rajoute un jour? Etc. Est-ce qu'on peut mettre un peu de désordre dans le calendrier? Etc. Alors qui a cette prérogative? Alors il y a tout un problème, il y en a qui disent que c'est en fonction des calculs. Un calcul astronomique en fonction duquel on fixe le calendrier. Le Rambam n'est pas d'accord avec ça, il dit c'est une erreur. La mitzvah est une mitzvah qui incombe au Beddin. Mais pas n'importe quel Beddin, seulement un Beddin qui a reçu l'ordination en Eretz Israël. Et ça ne peut se faire qu'en Eretz Israël. D'accord? C'est ce que dit le Rambam. Alors il dit, Veu Omro Itale, c'est le commandement que nous a donné Dieu, Achodesh Azel Achem Rosh Chodashim. C'est ce commandement est pour vous le premier des. Ce mois est le premier des mois, et tout cela. Bon. C'est très long ce qu'il dit là, je ne vais pas tout vous dire. Aval mitzvazo, ce commandement-là, loya aseota leolam ne sera jamais fait, et la bedin agadol levad, que le grand tribunal, ou veeret Israël levad, et uniquement en Eret Israël. Et là, il attaque les Géonim qui ont dit le contraire, enfin bon, tout un débat avec Rav Sadia Gaon. Et avec Rabbeinu Hananel, rentrons pas dans le détail de ce débat parce que ça nous amènerait très loin. Et après il dit Ve'aven ze, comprends cela. Ve'ani osif lechabeur, je vais te donner un supplément d'explication. Ilou non, je lis quelques lignes avant. Uvekan Shoresh Gadol Mishorshe Haemuna. Il y a là un grand principe qui se trouve dans les racines de la foi. Loyeda Ehu, qui ne peut être compris. Veloid Bonen Bimkomo est intelligent et intelligé. Ela Misheda Ato Amuka, que par quelqu'un qui a un profond entendement. Veze. C'est-à-dire, aujourd'hui en Chutz Laaretz, quand nous disons tel jour c'est Yom Tov, tel jour c'est Rosh Chodesh, ce n'est pas à cause de notre calcul, mais uniquement parce que le Bet Din d'Eretz Israël a décidé que c'était ce jour-là Yom Tov. Comment? Quoi qu'il y a? Comme il veut. Il peut le faire en fonction des calculs astronomiques, il peut changer pour des tas de raisons. Il y a des témoins, il y a des tas de choses. Aval Cheshbonen, mais notre compte à nous, c'est uniquement pour savoir ce que les habitants des restes Israël ont décidé. Vani aussi Rabéour, je vais te donner un supplément d'explication. Ilou inachnu derech machal, si l'on supposait par exemple. Chebene Eret Israël, Yadroum et Eret Israël, que les habitants d'Eret Israël seraient absents d'Eret Israël. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de juifs en Eret Israël. Et alors il rajoute, Halila Lael Measotzot, que Dieu se garde de le faire. L'histoire. Pourquoi? Ki Uiftiar, car il nous a promis. Sheloimhe Otot Auma Mikol Vachol, qu'il n'effacerait pas ce qui reste de notre nation. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous comprenez que pour le Rambam, ce qui reste de la nation, c'est la présence juive en Eretz Israël. D'accord? À tel point même que d'après le Khatam Sofer, dans son interprétation de ce texte du Rambam, s'il n'y avait plus de juifs en Eretz Israël, ça serait la fin du peuple juif et donc de toute la Torah. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des milliards de juifs en Koutz-Laaretz. Abolition de toute la Torah, Shabbat, le porc, tout cela finirait. D'accord ? Non, il n'y a jamais eu. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc il y a une promesse. C'est pour ça que ça ne peut pas se passer. Non, non. Velo Yesham Beddin, Velo Bechutzlaretz Beddin chez Nismar Barès, il n'y aurait plus là-bas de tribunal, ou il n'y aurait plus en Chutzlaretz de Beddin qui a reçu l'ordination en Eretz Israël. Iné Cheshbonenouze, Lo Yoelenu Klum Bechumpanim, notre calcul ne servirait plus à rien. Les fiches Enanou, les Chachev Chodashim, ou la Berchanim Bechutzlaretz, et la Bitnaim Aniskarim, et car nous ne pouvons pas faire les calculs des mois et les années embolismiques en Chutzlaretz seulement dans certaines conditions, comme nous l'avons expliqué, Kimitzion Tetse Torah. Car c'est de Tzion que sort la Torah. Donc vous avez compris, la centralité des Eretz Israël pour le Rambam, c'est quelque chose de viscéral, d'ontologique, comme on dit. Oui ? Alors, il y a tout un problème. Ce texte du Rambam amène beaucoup de questions telles que la tienne, par exemple. D'accord ? Hein ? Ça fait poser beaucoup de questions et ça peut susciter beaucoup de réponses. Mais, comme ce n'est pas le sujet du cours, n'allons pas en parler. D'accord ? Mais non, le problème c'est, alors pourquoi est-ce que le Rambam, s'il pense que c'est tellement important, n'a pas fixé ça comme mitzvah ? Ben parce que pour le Rambam, c'est comme exister. C'est-à-dire, une des conditions pour accomplir les mitzvot, c'est de respirer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans la liste des mitzvot la mitzvah de respirer ? Ben tout simplement parce que c'est à ceux qui respirent que la Torah est donnée. D'accord ? Donc on n'a pas besoin de dire qu'il faut respirer s'il n'y a pas de mitzvah dans la Torah. Oui ? Très bonne question, question posée par Rabbi Chizkiya Kreska, c'est par le SMAG, etc. Il y a toute une littérature autour de ça. Le SMAG, oui, le Sefer HaMitzvot HaGadol de Rabbi Moshe de Koussi. Maintenant, je voudrais quand même vous amener un petit passage qui est parfois ignoré. Des Ilchot Melachim du Rambam, ce qu'on appelle les règles des rois. C'est les règles des rois, c'est-à-dire de l'État. Le texte s'appelle Ilchot Melachim ou Milchamotehem, les règles concernant les rois et leurs guerres. Alors, le Rambam introduit ici la notion de Milchemet Mitzvah et Milchemet Reshut, la guerre qui est mitzvah et la guerre qui est facultative, pourrait-on dire. Alors, c'est quoi cette guerre-là ? En Amelech Nilham Techila et la Milchemet Mitzvah. Le roi n'entreprend au départ que des guerres de mitzvah. Ve'ezohi Milchemet Mitzvah. C'est quoi une Milchemet Mitzvah ? Important, c'est quelle guerre qui est une guerre positive. C'est peut-être dit dans Kitetsé, tu sais, j'en sais rien, mais là je cherche dans le Mishneh Torah. M'en fiche pas mal, c'est pas un livre de Halakha, là je cherche dans le livre de Halakha. Voilà. Bon. Alors il dit, c'est quoi Vezo Mirimsa ? Alors il y en a trois, d'après lui. Zomilchemet Shiva Amamim, la guerre contre les sept peuplades, ou Milchemet Amalek et la guerre contre Amalek. Ve'ezrat Israël miyad tsar sheba elehem, ainsi que l'aide apportée à Israël contre un ennemi qui vient contre eux. C'est-à-dire, s'il y a des ennemis qui veulent nous attaquer, il y a une mitzvah de faire la guerre contre les ennemis. Ve'acharkach, et après avoir fait ces guerres-là, nilcham bemilchemet arishut, il peut faire des guerres facultatives. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de faire des guerres facultatives tant qu'il n'a pas fait les guerres positives. Oui ?
Quand on dit se battre par un ennemi qui nous attaque, on les repousse et on s'arrête là ou on va carrément chez eux.
Ah, c'est vrai. Par exemple, si une guerre préventive, par exemple, c'est une guerre de mitzvah ou pas ?
Oui.
Il y a une marque loquette dans les poskim. Si la guerre préventive, par exemple, tu attaques des missiles qui sont dirigés contre toi mais que personne n'a lancé. Est-ce que ça c'est une guerre de mitzvah ou ça s'appelle Milchemet Arishut ? Il y a une marque loquette à ce propos.
Une fois que c'est attaqué, les deux sont dans la guerre mais on gagne.
Alors
mais
on les gagne, alors bien sûr, on les zigouille et on prend leur pays évidemment. Est-ce qu'on a le droit de manger du porc dans une Milchemet Arishut ? Ah, ça t'intéresse. Tu aimes tellement ça, toi ? Bon. Vehi Hamilchama. Alors, c'est quoi Milchemet Arishut ? C'est ça qui m'intéresse. On n'a pas toujours fait attention à ça. Ia Milchama Shinilcham Mishara Amim, c'est la guerre qu'il fait contre d'autres peuples. Kede Learchiv Gevul Israël, afin d'étendre les frontières d'Israël. Ou Learbot Bigdulato Veshomo, et pour agrandir son renom. Alors, donc la mitzvah de Milchemet Arishut, c'est d'agrandir les frontières. Et l'intérieur des frontières, alors, c'est quoi ?
C'est au-delà des frontières déjà promises ?
C'est ce que ça a l'air de dire. C'est-à-dire, puisqu'il y a la mitzvah contre les sept peuplades, Et après, il y a une mitzvah, enfin pas une mitzvah, reshout, il y a une autorisation de, d'agrandir les frontières. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur des frontières, ça s'appelle reshout ou mitzvah ? Mitzvah. Donc ça veut dire que le Rambam, il est d'accord avec le Ramban. Ah, pas bon ça. D'accord ? Bon. En tout cas, donc pour le Ramban, il y a également une vision politique de la conquête des restes d'Israël. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas en état de faire cette guerre? Alors, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, et là, vous avez le Rambam, il amène tous les dires des Chachamim, comme quoi c'est très bien d'habiter en Eretz Israël, le Olam Yadur Adam Eretz Israël, il est toujours bon d'habiter en Eretz Israël, et tout le reste. D'accord? Donc, vous avez ici, le Rambam n'est pas si loin du Rambam qu'il en a l'air. Il est peut-être même plus sioniste que lui. C'est-à-dire que pour le Rambam, c'est la dimension politique qui est particulière à la Torah. Je voudrais à ce propos vous amener un petit passage du Moré Nevouchim, le guide des égarés. Qui est l'auteur ? Le même, donc Rambam, Maïmonide. Et il y a une petite remarque de Rambam, mais très intéressante quand même, trois lignes, quatre lignes, quelque chose comme ça, dans laquelle il explique quelle est la différence entre la religion d'Abraham et la religion de Moshe. C'est comme ça qu'il emploie le terme. Date Abraham, date Moshe. Il dit, la religion d'Abraham... c'était un appel faible à connaître Dieu. C'est ça qu'il dit. Un kriya halusha. C'est-à-dire, ça veut dire que faisait Abraham? Ben, il se promenait avec sa tante et il distribuait des beignets et il disait, ben, venez croire en Dieu. Il distribuait des tracts. Il y avait des tracts abrahamiques pour amener les gens à croire en Dieu. Et il y a également des beignets. D'accord ? Alors ça, le Rambam appelle ça un appel faible. Il y avait de la musique, probablement. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe de plus, dit le Rambam ?
Des billets à confiture.
Non, pas du tout. Remarquez bien ce qui caractérise la Torah de Moshe d'après le Rambam. Il dit ce que Moshe a ordonné de tuer les idolâtres. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire... il a employé la violence. Mais qui a le droit d'employer la violence ?
Celui qui est fort.
Celui qui est fort a le droit d'employer la violence ? Ça, c'est La Fontaine qui disait. Je crois dans le loup et l'agneau. Mais je ne pense pas que ce soit l'opinion de la Torah. La prérogative de la violence, c'est une prérogative de l'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui a le droit de faire la guerre, qui a le droit de faire des tribunaux, qui a le droit de mettre à mort, etc. Donc, ça veut dire que pour le Rambam, le passage d'Abraham à Moshe, c'est le passage du religieux au politique. D'accord ? Et donc, pour le Rambam, c'est une évidence, une sorte d'évidence que Eretz Israël doit être sous notre domination, parce que sinon on ne peut pas réaliser le projet véritable de la Torah. C'est-à-dire le projet communautaire, de faire des cours, mettre les tefs, etc., faire la bar mitzvah, et puis la nahala et tout ça, et puis il y a du saumon fumé lors du kiddush. Tout ça c'est très bien. Mais si vous voulez, c'est une sorte de dérivé, dégradé du projet originel de la Torah selon le Rambam. Vous avez bien compris ? Voilà. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.